Vous écoutez
RMC. RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Timothée Mémon.
22h, c'est l'after jusqu'à minuit. Bienvenue, vous avez bien fait de nous rejoindre. On a un programme très riche pour cette soirée. Aujourd'hui, au sommaire de cette excellente émission, on l'espère, Stéphane Jobard, l'entraîneur de Dijon, sera avec nous. On va apprendre à connaître cette nouvelle figure de la Ligue 1. On essaiera de savoir pourquoi le DFCO et comment évitera les barrages en cette fin d'année. À 22h20, supporters lyonnais, appelez-nous au 32-16 pour débriefer la préparation de l'Olympique Lyonnais sous la houlette de Silvinho. Il y a encore eu une défaite ce soir face à Liverpool, 3-1. Le Mercato Show avec Saber Defarge. En deuxième heure, on vous parlera du hashtag Mon Mitroglou, le quiz de l'after. Bref, on va s'éclater. Et pour nous accompagner, eh bien, nous avons le gaucher de Raifa, Ludovic Obraniak.
Bonsoir à tous.
Et le droitier de Naïsna, François Manardo.
Bonsoir.
C'est moins avantageux.
Bonsoir. Largement, je te le concède, cher ami.
C'est moins avantageux.
Très bon club, Naïsna.
D'oublier, il y a prescription, évidemment.
Pas, le club, je ne l'ai pas connu.
Juste avant de commencer et de s'y mettre dedans, un mot sur la retraite de Patrice Evra que tu as fréquenté.
Moi j'avais déjà l'impression qu'il était parti à la retraite. Le fait qu'il l'officialise, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre.
Voilà qui est dit, voilà qui est noté. Alors vous le savez, à une grosse semaine de la reprise de Ligue 1, on a décidé ces jours-ci dans l'after de vous parler non pas des Cadors, non pas du Paris-Lyon-Marseille, mais d'aller voir des clubs un peu plus modestes. Nous étions hier avec Olivier Dalloglio qui nous a présenté Brest. Aujourd'hui on va parler de Dijon et Stéphane Jobard, l'entraîneur bourguignon, nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir
Stéphane. Coach.
Merci d'être avec nous, de venir nous présenter un petit peu cette équipe de Dijon, nous expliquer ce qui a changé par rapport à la saison dernière, avec une saison compliquée, un changement d'entraîneur en cours de saison, et puis on imagine peut-être des objectifs un petit peu plus élevés, ou en tout cas un petit peu moins stressants en fin de saison pour vous. On va commencer fort, Stéphane Jobard, une question de non-initié pour les néophytes. Dites-nous, qui êtes-vous, Stéphane Jobard?
Je suis un jeune entraîneur, j'étais fraîchement nommé l'année dernière avec l'obtention du BEPF. Et j'ai passé 30 ans dans le club de Dijon en tant que joueur, entraîneur des équipes de jeunes, des équipes réserves, adjoint auprès d'Olivier Dalloglio que vous avez eu hier soir, si je m'ai compris. Et l'année dernière, après un petit intermède marseillais auprès de Rudy Garcia, je suis revenu à la demande du président prendre les rênes de l'équipe dijonnaise.
Vous l'avez dit, 30 ans à Dijon, quand le président du DFCO vous appelle, il n'y a pas de possibilité de refuser, c'est une évidence.
Ça relève presque du conte de fées pour moi, parce qu'effectivement, le seul club, me semble-t-il, de Ligue 1 qui pouvait me proposer ce challenge était Dijon. Et lorsque le président m'a fait cette proposition, effectivement, j'ai vite accepté.
Alors, Antoine Camboiré a réussi sa mission la saison dernière. Il avait été appelé à la mi-saison, au début janvier, pour sauver le club. Ça s'est fait lors des barrages. Il n'est pas resté pour autant. Dans quelle position cela vous met ?
Moi, quand je suis arrivé à Dijon, on m'a parlé de cette saison douloureuse avec les barrages. Mais heureusement, l'issue est heureuse. Aujourd'hui, Dijon est encore en Ligue 1. Effectivement, vous avez raison de le souligner, Antoine Camboiré, j'ai envie de dire aussi Olivier Dalloglio, ont réussi leur mission, c'est-à-dire d'obtenir les points nécessaires au maintien du club. Donc aujourd'hui, le président me fixe comme objectif de se maintenir, il m'a dit, plus sereinement possible. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que je pense que ça veut dire éviter de passer par la case barrage. Mais on va s'atteler effectivement à montrer qu'on a le niveau de Ligue 1 cette année.
Alors on va s'intéresser un petit peu à vous, Stéphane Jobard, on a envie de vous connaître, on a envie de savoir à quoi va ressembler le Dijon de Stéphane Jobard. Il y a un mot qui est très à la mode aujourd'hui, c'est la philosophie de jeu. Quelle est la philosophie de jeu de Stéphane Jobard?
Alors la philosophie de jeu de Stéphane Jobard s'adapte aussi aux joueurs qu'il a sous sa coupe, notamment lorsqu'on est à Dijon. Malgré tout, on fait le constat depuis ces trois dernières années, les trois années où Dijon était en Ligue 1, que l'équipe fait partie des défenses les plus perméables du championnat. Donc l'idée, c'est de continuer à produire du jeu, parce que Dijon est réputé pour produire du jeu et se créer des occasions, en étant un peu plus hermétique. et être un peu plus équilibré dans le jeu qu'on va proposer.
Justement, être plus hermétique, Ekwele Manga a été recruté à Cardiff, c'est dans cet objectif-là ?
Ouais, tout à fait, effectivement. Moi, l'idée, c'est d'avoir... C'était de changer un petit peu les hommes derrière et Bruno Ekwele Manga est vite apparu comme un profil très intéressant, voire idéal. Et pour moi, ça va être la pierre angulaire de mon dispositif défensif cette année.
C'est un joueur dont la Ligue 1 se souvient, mais peut-être certains l'ont perdu de vue. Il en est où, Ekwele Manga ?
Bah, Ekwele Manga est déjà très performant parce qu'il vient de Cardiff. Il est descendu avec Cardiff l'année dernière en championship, mais il a fait 38 matchs. Il a goûté 4 ans à championship aussi. Et voilà, aujourd'hui, il est opérationnel. Il a fait la préparation avec Cardiff. Il est venu nous retrouver. Il était en stage à Dallas aux États-Unis. Il est venu nous retrouver il y a maintenant une quinzaine de jours pour être vite opérationnel. Et montre d'emblée, effectivement, qu'il a un niveau très intéressant.
Alors, l'autre recrue de cette formation du DFCO, c'est le dénommé Mama Baldé, qui arrive du Sporting, un joueur qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce joueur ?
Alors, Mama Baldé vient effectivement du Sporting. Il était prêté l'année dernière à Deportivo Aves. C'est un joueur de couloir qui est très puissant et qui a de grosses qualités athlétiques. Et en plus, c'est un dévoreur d'espace. C'est un profil qui manquait un peu dans mon effectif. Aujourd'hui, on avait des petits gabarits qui percutent balle au pied, tels Naïm Sliti ou Wesley Saïd. Donc, je souhaitais effectivement avoir ce profil de joueur. J'ai vite validé le profil de Mama.
Stéphane Jobard est avec nous dans l'After pour nous parler du DFCO. Une question de François Manardo, Stéphane.
Ah, merci, monsieur Mémon, j'attendais. Non, coach, bonsoir. Plus sérieusement, j'avais une question par rapport... ce nouveau costume dans lequel vous glissez en tant qu'entraîneur principal. Vous avez été longtemps entraîneur adjoint. Vous avez pu mettre en avant aussi quelque chose, une qualité qui vous suit, celle d'avoir un contact facile, d'avoir une vraie empathie avec les joueurs en tant qu'adjoint, ce qui est souvent d'ailleurs le rôle de l'adjoint. Maintenant que vous allez prendre du recul, que vous devez prendre du recul, est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez naturellement, le fait d'être peut-être un peu moins dans une relation différente avec les joueurs, non pas moins, mais différemment?
Oui, j'ai effectivement conscience qu'il faudra prendre un petit peu de distance avec les joueurs. Malgré tout, l'idée de garder le contact avec eux va rester présent. J'aime dialoguer, échanger avec eux, parce que je pense, je ne crois plus au savoir descendant des entraîneurs. Je crois que maintenant, effectivement, il est bon de consulter ces joueurs, ne serait-ce que pour avoir leur impression, parce qu'on n'oublie pas non plus que ce sont des experts, ce sont eux qui sont sur le terrain. Et des fois, la perception qu'on peut avoir du terrain est peut-être différente de celle qu'on a sur les bancs de touche. Donc, l'idée de... Voilà, je parle de collaboration, mais en dernier lieu, effectivement, je serai le dernier à décider et à juger, effectivement, de la participation de chacun des matchs.
Stéphane Jobard, une question de Ludovic Obraniak.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Alors moi je connais le nom de Stéphane Jobard parce qu'il est affilié à un coach auquel je suis attaché, avec qui j'ai gagné des choses, qui était Rudy Garcia. Donc oui. Je suppose avec Fred Bompard et Claude Fichot. Moi je suis plutôt content qu'on voit justement des gens qui ont qui connaissent l'environnement club, qui ont été joueurs, qui sont passés en tant qu'adjoints, qui ont eu des expériences ailleurs. Donc à l'image de Julien Stéphane un peu, hein, qui était à Rennes. Certes, Stéphane, on ne connaît pas encore très bien en tant qu'entraîneur principal, mais je suis sûr qu'il connaît très bien le club et qu'il connaît très bien cette équipe. Moi, j'ai quelqu'un qui m'est cher au sein de ce club-là, qui est Florent Balmont, qui va avoir 38 ans, il me semble.
C'est officiel.
Quand on voit la saison dernière, l'importance qu'il a dans le maintien de Dijon, je voulais savoir si vous alliez vous appuyer encore sur lui à son âge. Et une question aussi quels sont les entraîneurs qui vous ont influencé, justement, là vous arrivez, quels sont vos mentors?
Alors, pour répondre à votre première question, effectivement, Florent est une figure de notre championnat. C'était l'une de nos premières recrues phares. Il a apporté un éclairage différent sur le club de Dijon. Parce que je vous rappelle que Dijon est quand même un jeune club, créé en 98. Florent est encore parmi nous cette année et l'idée de s'appuyer sur lui fait forcément prégnante de mon côté. J'ai envie effectivement de le consulter et ça a un relais important, ça l'est déjà là au cours de la préparation. Et Florent répond à sa mission à merveille. Donc voilà, et je sais que il y aura des moments difficiles dans la saison et que des joueurs de son expérience sont forcément utiles pour rassurer le groupe et puis montrer la voie. Donc voilà, Florent aura un rôle encore important cette année. Et pour votre deuxième question sur les mentors, Ludovic, c'est un peu comme vous. Moi, j'ai eu Rudy Garcia comme entraîneur à la fin de ma carrière et qui m'a donné l'impression de pouvoir encore progresser à cet âge. Donc, je me suis fortement inspiré de son management sur mes premières années d'entraîneur. Et je l'ai rejoint l'année dernière à Marseille. Et forcément que c'est quelqu'un qui m'a impacté. Donc, voilà, je vais pas faire du Rudy Garcia, je vais le faire à la sauce dijonnaise. Mais forcément que Rudy m'a marqué.
Bon, vous avez un avantage, c'est que Rudy vous a montré tout ce qu'il fallait pas faire sur la dernière année à Marseille.
No comment.
Stéphane Jobard est avec nous dans l'After, 22h12. On va continuer de dérouler cette interview. Une question peut-être de François Manando.
Oui coach, est-ce que Tavares sera dijonnais cette saison?
Oui, et elle était encore avec moi dans le bus. On vient de stage de Vital, elle était encore avec moi dans le bus.
Donc voilà.
Ne donne pas l'impression de vouloir partir.
Donc, il sera dijonnais, c'est de la bouche du coach, donc on le prend pour argent comptant. Et du coup, ma question, avec l'association avec Mama Baldé, est-ce que ça pourrait ressembler à l'ancienne association qui avait fait, non pas feu de tout bois parce que c'était un club qui était en difficulté, mais qui avait bien fonctionné entre Diony et Tavares, puisque a priori il semblerait que Mama Baldé ait les qualités du bon Diony, hein, c'est-à-dire le Diony dijonnais.
Oui, c'est exactement, il peut y ressembler un petit peu. Alors, même si Mama Baldé était un peu plus formé comme un joueur de couloir, il peut même évoluer comme latéral droit, donc sa polyvalence est vraiment très intéressante. Mais l'idée de le voir sur d'autres postes d'attaque, effectivement, me chatouille un peu, et pourquoi pas l'associer avec Julio. Vous avez raison de le souligner, la première année, les deux compères avaient marqué plus de 10 buts en Ligue 1, donc ils nous avaient porté à bout de bras pour l'opération maintien la première année de Ligue 1 à Dijon.
Alors Stéphane Jobard, vous nous avez confirmé que Julio Tavares serait la saison prochaine dijonnais. Quid de Wesley Saïd?
Écoutez, pour l'instant, avec Wesley, on est un peu en point mort. Wesley nous a affirmé sa volonté de nous quitter pour rejoindre Toulouse. Moi, j'en avais fait ma priorité numéro un offensivement, avant qu'il se prononce. Je lui ai proposé aussi de continuer de s'entraîner, quelle que soit sa future destination, c'est chez nous ou ailleurs, pour être performant pour le début de la saison. Wesley a changé un peu de stratégie. Je l'accepte et aujourd'hui, je concentre mon énergie sur le groupe qui sera amené à débuter contre Saint-Etienne.
Un joueur qui va comme ça un petit peu au bras de fer pour un entraîneur qui arrive en poste en Ligue 1, c'est pas simple comme situation à gérer.
C'est relativement simple parce que voilà, je lui ai proposé de rester investi et par contre Wesley a eu plutôt l'honnêteté de me dire qu'il ne se sentait pas à même d'être investi pendant la séance, donc dans un premier temps il s'est entraîné à part avec un préparateur physique pour ensuite décider de rester chez lui. Donc voilà, moi je vais pas manger toute mon énergie pour effectivement l'obliger à revenir auprès de nous, enfin ça m'est compliqué de le faire. La balle est plutôt dans le camp maintenant des dirigeants et de mon président. Et voilà, si Wesley demain refrappe à la porte pour venir chez nous, il sera le bienvenu.
Alors Stéphane Jobard, merci d'être avec nous dans l'After. C'est aussi l'occasion de vous mettre directement face à vos supporters. Romaric a 33 ans, il a une question pour vous Stéphane Jobard. Romaric, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à l'équipe, bonsoir Timothée, bonsoir François et bonsoir Stéphane.
Bonsoir Romaric. Alors Romaric, tu as 33 ans, tu es supporter de Dijon et tu voulais t'adresser directement au coach Stéphane Jobard.
Effectivement. Alors tout d'abord, merci pour revenir à Dijon, parce que j'en sais, enfin, tous les supporters dijonnais savent que Stéphane Jobard, c'est une figure emblématique du club. Il représente vraiment les valeurs dijonnaises. Donc déjà, tout d'abord, merci de revenir chez nous après cette année marseillaise, qui j'espère t'a vraiment permis d'apprendre des choses positives comme négatives. J'ai une grosse question parce qu'on est, nous en tant que supporters, on est un peu déçus pour l'instant du mercato du club. On voit beaucoup de joueurs partir, surtout offensivement. Alors, on a perdu Kwon et j'en citerai d'autres. Et on a très peur par rapport à Wesley, que vous avez parlé juste avant. Et également Naïm Sliti. Et la grande question qui se pose à nous, c'est de savoir si offensivement, on va avoir des recrues, si toutefois ces joueurs-là étaient amenés à partir de qualité. Et est-ce que vous avez des joueurs, entre guillemets, dans visu pour pouvoir nous permettre de pallier à ces manques? Parce que je pense que Wesley Saïd a été notre meilleur joueur offensivement l'année dernière. Naïm Sliti a quand même fait de très bonnes choses, surtout lors de la période des barrages où on avait vraiment besoin de joueurs d'expérience et de qualité. Donc voilà, ma question, c'est est-ce qu'on a, si toutefois ces joueurs devaient être amenés à partir, des remplaçants en visu du côté de Dijon?
Alors, Romaric, je vais essayer de te rassurer. Tout d'abord, Naïm Sliti est toujours chez nous. On attend la semaine prochaine, donc il doit venir nous rejoindre. Dernière nouvelle, donc il sera à l'entraînement la semaine prochaine. Donc c'est une première bonne nouvelle. Sans trahir de secret d'alcôve, on a dans le viseur un attaquant qui pourrait arriver très prochainement, un joueur de pointe. Donc voilà, on sait que lorsqu'on est Dijon, il vaut mieux s'entourer de la plus grande discrétion pour pas attiser les convoitises de nos concurrents. Et effectivement, on s'est mis d'accord avec le président, s'il venait à avoir d'autres départs, on les compenserait. Donc il y a d'autres dossiers aussi qui sont en cours. Donc voilà, donc pas de panique. On est obligé de s'adapter un petit peu à la logique économique lorsqu'on est un club de l'envergure de Dijon. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément le premier choix des joueurs. Lorsqu'on se positionne sur des joueurs, c'est souvent très cher ou trop cher pour nous. Et il faut souvent faire preuve de patience pour obtenir gain de cause.
D'accord. Voilà. J'ai une petite question subsidiaire. Il y a un joueur dont on parle un petit peu du côté des forums de Dijon et autres, qui était amené à parler, si je peux en parler rapidement, un joueur congolais, un arrière gauche, droit ou droit, je sais plus, un arrière en tout cas, un latéral, qui a fait la CAN. Est-ce que ce joueur est toujours d'actualité ou est-ce que ce n'est plus d'actualité?
Il fait partie des probables, comme d'autres.
D'accord. Okay.
Et puis, je pense que tu en sauras rapidement plus pendant les jours à venir. Voilà.
D'accord. Merci Stéphane.
Merci. Je vais toujours en dire plus, mais
merci.
Voilà, tant que les signatures ne sont pas posées en bas des contrats, c'est compliqué de se positionner.
Merci Romaric d'avoir été avec nous. On te souhaite une très très belle saison avec le DFCO à Gaston Gérard, en espérant que tu puisses t'y rendre le plus souvent possible. Alors Stéphane Jobard, justement, puisqu'on parlait mercato, on s'est penché un petit peu sur l'équipe du DFCO potentiel de la saison prochaine. Encore une fois, tout n'est pas acté. Alphonse, Lotoa, Shafik, Amalfitano, Balmont, Marié, Sliti, Tavares. Ça ressemble quand même beaucoup à cette équipe qui est allée en barrage la saison dernière. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux ou est-ce qu'au contraire ça peut être une force, une certaine forme d'expérience pour cette équipe?
Je pense que les joueurs ont été échaudés par la saison dernière. Donc ce qui a un petit peu changé, aujourd'hui j'ai affaire à des joueurs vraiment chers qui ont envie de montrer qu'ils méritent mieux que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc ça, c'est une première donnée à prendre en compte. Ne pas oublier que aussi pour l'instant les trois recrues que j'ai, Equalemanga, Ndong et Baldé, m'apporte une plus-value et je suis en attente de 2 à 3 joueurs supplémentaires. Donc voilà, l'idée c'est de renforcer, de stimuler ce groupe-là. Et je connais aussi ses qualités, hein, parce qu'on a un ADN à Dijon, effectivement, où on a l'habitude de bagarrer pour sauver sa peau, et je compte encore m'appuyer sur ces vertus-là avec les joueurs que je connais en tant qu'adjoint et que je connais depuis un moment. Mais je pense que le cocktail, peut être sympa.
Stéphane Jobard, on va vous laisser dans quelques instants. Peut-être une dernière question sur ce début de championnat de Ligue 1. Vous recevez la
Saint-Étienne, ouais.
Vous allez à Toulouse et vous allez recevoir Bordeaux. Finalement, c'est une belle entrée en matière pour se jauger au niveau de cette Ligue 1 2019-2020. Vous avez d'ores et déjà un objectif comptable sur ce mois d'août?
Non, pas forcément. On va se concentrer tout d'abord sur le premier match de Saint-Étienne. Effectivement, c'est un Européen qui vient à domicile et voilà, je pense que comme vous l'avez souligné, c'est le match idéal pour s'étalonner et donner le tempo du début de saison. Je sais que le championnat début août n'est pas forcément celui de fin août, le mercato terminant le 31. Donc voilà, on va essayer de tâter de prendre un maximum de points d'entrée. Ben pour ne serait-ce que valider le travail effectué, puis installer un peu de confiance auprès des joueurs. Voilà. Donc voilà l'émission qui sont assignés au groupe Dijonais sur le mois d'août.
La question bonus de François Bonnardo.
Oui, non, mais coach, vous l'avez dit vous-même, vous avez été la défense la plus perméable de Ligue 1 hein, depuis la session de Dijon. Vous avez réussi tout de même à vous maintenir. Vous avez parlé de rééquilibrer ça, indépendamment des qualités de vos joueurs et de partir d'une page blanche pour le nouveau championnat. Est-ce que vous pensez qu'un système serait plus adapté pour justement rééquilibrer ce rapport défense-attaque? Et consolider la défense principalement.
Alors le constat suivant a été fait, c'est au-delà des systèmes et au-delà des entraîneurs, l'équipe restait perméable. Donc je pense qu'il y avait une question aussi de qualité individuelle. Et je pense que quelque part aussi en termes d'animation offensive aussi, c'est-à-dire qu'il y a moyen de s'accorder plus de sécurité défensive lorsqu'on on possède le ballon. Et effectivement, c'est de se prémunir des pertes de balles. Et Dijon a beaucoup trop souffert de ces pertes de balles, notamment dans sa moitié de terrain l'année dernière, pour se faire transpercer. Donc voilà, l'idée, c'est d'être un peu plus sécuritaire dans la possession de balles. Donc vous voyez que...
Ce qui a dû avoir plus de qualité technique, donc.
On a le ballon, voilà, c'est, on anticipe les pertes de balles. Voilà.
Ce qui a dû avoir plus de qualité technique avec vos joueurs.
Exactement, ou effectivement d'avoir des zones privilégiées dans lesquelles jouer pour éviter de se faire transpercer. Voilà.
Stéphane Jobard, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'after. Merci de nous avoir fait l'amitié de venir nous présenter Dijon et de venir vous présenter. On en sait désormais un petit peu plus sur l'entraîneur du DFCO et sur cette équipe d'ailleurs avec laquelle il est très agréable de travailler. J'en profite pour saluer, c'est pas souvent, mais le service communication, c'est l'un des clubs avec lequel c'est le plus agréable de travailler, il faut le dire.
Faire un classement des.
Si on fait un classement, figure-toi qu'on
Dijon pourrait, et Champions League.
On pourrait quasiment prendre le classement sportif à l'envers. C'est quasiment ça. Merci beaucoup, Stéphane Jobard,
pour la saison.
On vous souhaite une excellente saison avec le DFCO. Dans quelques instants, on va vous parler de Lyon, de la préparation en demi-teinte de l'Olympique Lyonnais. Avant cela, cette semaine, dans l'after, on vous offre des places pour le match entre Lille et l'AS Roma. Ce sera samedi au stade Pierre-Mauroy. Que vous soyez lillois ou que vous encouragiez la Roma, profitez d'un match en fan zone pour emporter des places. Vous envoyez place au 7-32-16, pardon, PLACE au 7-32-16. On revient tout de suite pour vous parler de Lyon.
RMC, l'Afterfoot, Timothée Mémon.
22h26, vous êtes sur RMC, vous êtes sur RMC Sport News si vous voulez nous voir en télé, sur RMC, à la radio, vous nous suivez également sur Direct Studio, vous pouvez discuter avec nous via le Twitter de l'After. N'hésitez pas, tout à l'heure d'ailleurs, on parlera du hashtag MonMitroglou, on reviendra sur notre hashtag hier, notre joueur de cœur. Tiens, je te donnerai la parole, François, on y avait pensé ensemble à ce joueur qui vous a fait briller un petit peu les yeux dans votre club. On aura l'occasion d'y revenir parce que hier, quand on a fait un petit peu le tour des joueurs de cœur, il y en a un qui s'est détaché comme étant presque le joueur ultime, le joueur de cœur de la Ligue 1 quasiment, qui va au-delà de son club. Ce sera donc tout à l'heure à 23h, à 22h40, on vous dira tout sur le mercato du jour avec Saber Desfarges. Il y en a beaucoup de choses sur le LOSC, un dossier très complet de Saber. Avant cela, on va parler de l'Olympique Lyonnais, messieurs. L'Olympique Lyonnais qui
a encore perdu en match
amical. Alors, on va rappeler les matchs amicaux de l'OL. Il y a eu une défaite contre le Servette 2-1, une défaite contre le Genoa 4-3, mais peut-être un petit peu en trompe-l'œil parce que à 3-2, l'équipe a très largement tourné et la fin de rencontre a été un petit peu spéciale. Une victoire face à Arsenal avec un doublé de Dembélé. Puis aujourd'hui, les Lyonnais sont inclinés 3-1 face à Liverpool avec un pénalty de Depay. Qu'est-ce que ça vous inspire cette préparation, plus exactement, pas ce début de championnat, cette préparation de l'Olympique Lyonnais, messieurs?
Bah, ça rassure certainement pas ni le coach ni les joueurs parce que pense surtout là le match de soir contre Liverpool. Ah, attention, tu joues un double finaliste européen, de surcroît champion d'Europe en titre. Même si Liverpool avait pas complètement la grosse équipe, ils ont d'ailleurs fait rentrer 11 joueurs à la 62e minute pour être tout à fait précis. Mais Lyon a subi toute la rencontre. On n'a pas vu de réaction, on a vu même des Lyonnais, j'ai trouvé, qui tâtonnaient sur le terrain, on se sentait pas vraiment des automatismes se mettre en place. Donc moi je suis raisonnablement inquiet. Ils jouent l'ouverture du championnat à Monaco, si je me trompe pas, ils reçoivent pas, ils vont à Monaco. Bon, Monaco sera pas le Monaco de la saison passée, ce sera pas non plus, sans doute pas un foudre de guerre de la Ligue 1. On verra, mais ce sera quand même un déplacement à, évidemment, à regarder de près. Mais je trouve que ce Lyon et Silvinho avec eux, pour l'instant, n'offrent pas pas de garantie. C'est trop tôt pour le dire, mais de séquences vraiment, vraiment intéressantes. Même s'il y a eu une réaction contre Arsenal, c'est vrai.
Ce sera effectivement le match d'ouverture de la Ligue 1 le vendredi,
oui, c'est le match
9
d'ouverture du championnat,
à
ouais.
Monaco. Ludovic, il y a eu pas mal de changements. Changement de coach, changement de directeur sportif, l'arrivée de Silvinho, l'arrivée de Juninho. Il y a également eu des départs. Les frères Fekir sont partis au Betis Séville. Ndombele à Tottenham, Ferland Mendy au Real sont des joueurs majeurs de cet effectif, remplacés par Youssouf Koné, arrivé de Lille, tout comme Thiago Mendes. Andersen de la Sampdoria, Jean Lucas de Flamengo, Tataru Chanou de Nantes, dans une moindre mesure. C'est normal pour toi qu'il y ait un petit peu de flottement sur ces matchs de préparation ?
Comme dans chaque effectif qui joue avec des internationaux qui arrivent avec des préparations un peu disparates. Certains reprennent à telle date, d'autres un peu 10 jours plus tard. Tu as eu beaucoup de changements dans cette équipe. Donc, sur cette séquence de matchs amicaux, certes, il y a 3 défaites, c'est ça ?
C'est ça, 3 défaites, 1 victoire.
Bon, moi j'ai vu le match contre Arsenal et la première mi-temps contre Liverpool. Si tu veux, le match contre Arsenal, il tend quand même à me rassurer. Et en tout cas, la première demi-heure contre Liverpool, j'ai vu un autre Olympique Lyonnais que ce que j'avais l'habitude de voir la saison dernière. Notamment les premières minutes, ils ont mis un pressing terrible sur cette équipe de Liverpool. Après, cette séquence de matchs amicaux, ce que tu joues, quand tu regardes les matchs amicaux d'autres clubs, bon. Tu joues pas contre Montélimar, Montluçon et Perpète-les-Ouilles, tu vois. Tu te fais une séquence de matchs amicaux, ouais, contre des prétendants quand même sérieux, tu vois. C'est des équipes qui sont amenées à jouer de grands rôles, que ça soit dans leur championnat ou aussi sur le plan européen. Donc ça m'inquiète pas plus,
ouais,
que ça.
Ouais, mais Ludo, si tu regardes effectivement, ils n'ont pas joué contre, comment tu as dit, Perpète-les-Ouilles.
Le Sporting, ouais. Perpète-les-Ouilles.
Je ne sais pas, mais va m'apprendre
très
aussi Ludovic
Obraniak. Très belle équipe.
Non, mais plus sérieusement, après, tu as le résultat sec. Trois défaites, on l'a dit. Mais après, tu as dans la manière et dans les séquences. Quand je parle plus de séquences que de manière sur ces matchs de préparation, parce que, comme l'a dit Ludo, il y a les niveaux de préparation qui sont différents en fonction de qui tu as récupéré, etc. Maintenant, quand tu regardes la compo de Lyon, moi, à mes yeux, elle ressemble à l'équipe qui va attaquer le championnat. Pour moi, c'est le, a priori, c'est le 11 titulaire de départ de la saison de l'Olympique Lyonnais. Et c'est là où je suis relativement, raisonnablement inquiet. Parce que Liverpool avait aussi une série, comme Lyon, pas mal de défaites, voire que des défaites, je crois. Et ils ont gagné contre l'OL haut la main, sans qu'il y ait de discussion. Et en plus de ça, avec ces 11 changements à l'heure de jeu, ils t'ont presque aussi donné l'impression, ou complètement donné l'impression, que Lyon était vraiment le petit sparring de la fin d'après-midi. Et Lyon, qui est quand même un cador du championnat de France, et qui est 8e de finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, voilà, moi j'ai pas trouvé un Lyon réactif, comme ils ont réagi contre Arsenal. Parce que si, je pense que contre Arsenal, ils sont menés au score, et puis ils réagissent, et ils gagnent. Mais là, j'ai pas trouvé cette réaction-là, et j'ai pas trouvé de la confiance entre les joueurs dans le jeu.
Messieurs, on va accueillir Maxime, qui est supporter de l'Olympique Lyonnais. Bonsoir, Maxime.
Salut, les gars.
Alors, bonsoir, Maxime, ces 4 matchs de préparation, ils t'ont inquiété? Pour toi, ils ont pas forcément de sens?
Non, pour moi, ils ont beaucoup de sens. J'ai vu les 4. Effectivement, il y a 3 défaites au-delà du résultat, parce qu'au final, c'est pas ça le plus important. Ce qui m'intéressait, moi, de voir, c'était une évolution par rapport à ce qu'on avait eu sous l'ère Genesio. Bon, il se passe pas grand-chose. J'ai vu le match encore aujourd'hui. Franchement, c'est très, très mauvais. C'est le pire, d'ailleurs, de toute la préparation. Il s'est rien passé. Ludo parle d'un pressing sur les 30 premières minutes. Alors, je sais pas si on a vu le même match. Mais si y a un pressing qui était organisé, il était franchement pas au point. Ben on s'est fait tourner, quoi. Mais on s'est fait tourner pendant 90 minutes. C'est-à-dire qu'il y a le penalty là qui arrive au bout de 5 minutes de jeu, qui fait un petit peu illusion. Mais sinon le reste du match, il se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une occasion. Moi je veux bien qu'on parle de préparation, de nouveaux joueurs, etc. Si on prend la compo, je suis d'accord avec François, c'est la compo qui va démarrer à Monaco a priori.
à la différence. J'allais dire que Koné, qui vient de Lille, là, sera certainement titulaire à la place de Marçal.
De Marçal à
gauche.
On a
l'équipe. On a l'équipe titulaire. Il n'y avait que trois nouveaux. Hein. Il y avait que trois nouveaux joueurs sur l'équipe. Il y a les deux milieux de terrain, Thiago Mendes et Gianluca, et le petit Andersen là qui commence en défense centrale.
Mais c'est aussi une partie de la colonne vertébrale, hein, les trois nouveaux.
Très inquiétant, quoi.
Justement, Maxime, avant de prendre l'auditeur suivant, une question. Andersen, c'est un joueur que le grand public connaît mal. Quelle impression il t'a fait? Outre, il a marqué contre son camp, mais bon, c'est pas.
Non. Alors, lui, pour le coup, c'est très difficile de le juger puisqu'il arrive tout juste, il est en cours de préparation, ce qui n'est pas le cas de plein d'autres joueurs. Thiago Mendes, par exemple, a commencé tôt. Gianluca aussi. Ces deux-là sont un peu plus inquiétants. Mendes dans une moindre mesure, hein, pour le coup, mais Gianluca, bon. J'attends de voir, mais Andersen, difficile de le juger, mais en tout cas, j'ai bien aimé dans l'agressivité, etc. C'était pas mal à voir.
Merci beaucoup, Maxime. Je ne prendrai pas Andersen à mon petit gazon, en tout cas pas en début de saison. Je vais attendre un petit peu qui se rôde. Merci d'avoir été avec nous. On te souhaite une belle saison.
Mais je suis pas tout à fait d'accord avec Maxime sur le
Ludo.
En tout cas, on était là, on l'a vu la première mi-temps. Donc, certes, peut-être pas sur la durée de la première période, mais les 20-25 premières minutes, honnêtement, j'ai vu un Lyon conquérant qui a essayé d'embêter les relances de cette équipe. D'ailleurs, le but, il vient comment? Le but, il vient parce que Lyon, à un moment donné, exerce une certaine forme de pression qui fait qu'il y a un superbe relais sur le côté avec Memphis Depay qui décale. Il y a un centre pied gauche, je suppose que c'est de Marçal, où certes Alisson se déchire un peu, mais si tu veux, Dembélé est là, il met la pression. Ils ont essayé. Il y a eu des intentions. Après, est-ce que ça a été bien coordonné? Est-ce que ça a été si efficace que ça? Je dis pas, mais en tout cas, j'ai vu un Lyon qui a essayé de faire d'autres choses que ce qu'il présentait la saison dernière.
Mais Ludo, comment tu
dans les intentions?
Comment tu expliques? Les Anglais vont reprendre comme nous. Donc, au niveau de la préparation, ils sont au même niveau que nous. Comment tu expliques, indépendamment de la qualité intrinsèque du collectif et des joueurs que tu as à Liverpool. On a pas vu cette envie qu'ils ont affichée dans 15-20 premières minutes. Après, elle s'est éteinte sur un match amical, sans enjeu. En revanche, tu as vu Liverpool, non pas pied au plancher, mais qui arrivait à donner le rythme qu'ils voulaient. Moi, c'est l'impression que j'ai eue.
Après,
c'est que Liverpool,
pour moi, tu prends deux buts bêtes. Sur deux coups du sort, il y a un ballon qui traîne, Firmino, fait un exploit individuel. Voilà, donc tu mènes au score, tu prends deux buts comme ça en cinq minutes, donc tu prends un petit coup derrière la tête quand même. Et puis Liverpool, c'est une équipe qui a pas beaucoup changé son groupe. Il y a des mecs qui étaient là la saison dernière qui ont pas énormément joué, mais t'as Firmino qui était là, Shaqiri qui était là, Salah a joué. Donc c'est des mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble. C'est des mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Lyon, ils ont changé sur le 11 de départ, t'avais quand même 5 nouveaux arrivants quasiment. Donc on peut se dire que sur un automatisme de pressing, il y a peut-être encore le mec qui arrive une minute, qui arrive 10 secondes un peu en retard, 5 secondes en retard par-ci, et ça déséquilibre tout un groupe. Donc je pense que Lyon est dans un nouveau cycle, avec une nouvelle envie, une nouvelle vision, tu changes pas comme ça une philosophie de jeu du jour au lendemain.
Est-ce qu'elle se met en place? Mais voilà, moi je reste raisonnablement
Arsenal, ils ont été bien contre Arsenal.
Messieurs, Cédric est supporter de l'Olympique Lyonnais. Il est avec nous. Il a trouvé le match décevant. Bonsoir, Cédric.
Bonsoir à l'after, bonsoir à François et bonsoir à Ludovic.
Bonsoir, Cédric.
Merci de nous avoir appelé au 32-16. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré ce match? Est-ce que pour une entrée en compétition, donc dans une grosse semaine, une dizaine de jours à peine, face à Monaco, est-ce que tu es confiant, rassuré, inquiet?
Inquiet. Ludovic, je suis pas souvent d'accord avec toi par rapport à tes analyses qui sont quand même assez justes et pertinentes, mais autant pour le match que j'ai vu, moi,
j'ai pas vu tout le match, donc je vais pas te mentir, j'étais dans le 18-20 avec Benoît Boutron et on avait le match avec nous pendant qu'on présentait l'émission, donc si tu veux, j'ai eu l'occasion à certaines reprises de regarder des séquences.
Vision partielle.
J'ai pas vu l'intégralité du match, j'ai pas vu vu la deuxième mi-temps et j'ai vu quelques séquences de la première mi-temps.
Il est franc, Ludovic Obraniak. Non, non. Tous les consultants disent pas ça.
On était en pleine émission en même temps, donc si tu veux, compliqué d'avoir un œil partout.
C'était Frédéric, pas, non,
mais,
c'est
vrai, pas mais du coup, le peu de séquences que j'ai vu, moi j'ai vu au moins, alors c'était peut-être pas coordonné comme on le voudrait, c'était peut-être, mais au moins dans les intentions, j'ai vu un Lyon qui a au moins essayé d'être un peu plus
conquérant.
Ouais, conquérant, un peu plus de pressing. Alors certes, il suffit que Bertrand Traoré, qui est pas toujours le garçon qui, quand tu déclenches un pressing, c'est lui qui peut tout déglinguer parce qu'il est souvent en retard ou pas là ou absent, voilà. Je pense qu'il y a encore quelques petites retouches à faire. Je pense que le mercato lyonnais n'est pas encore fini. Mais je suis moins inquiet que tous là, vous le laissez penser.
Alors Cédric, toi qui as vu le match en intégralité avec attention, qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette rencontre et pourquoi tu es inquiet à ce point ?
Bah moi je suis un petit peu inquiet parce que je trouve quand même qu'on prend quand même beaucoup de buts par rapport à ces matchs amicaux. Le match contre Arsenal, il est quand même moyen, j'ai trouvé aussi, je l'ai vu aussi, mais il est quand même moyen. Le match de ce soir, moi, je le trouve faible dans les intensités, dans la façon de faire. Il y a aucune profondeur. Voilà, j'ai trouvé faible. Maintenant, oui, bien évidemment, le staff a changé, les joueurs ont changé, on a perdu des joueurs cadres à des postes super importants. Voilà, j'ai trouvé Marçal en difficulté assez souvent. Bien évidemment que Koné va prendre sa place à un moment donné, mais comme dit François, et là, je suis entièrement d'accord, je trouve que c'est le 11 titulaire qui va débuter à Monaco et je trouve quand même qu'on prend quand même beaucoup de buts. J'ai trouvé notre milieu de terrain pris de part en part dans tout le match.
Ils ont subi.
Liverpool, ouais.
Le milieu a subi.
Remanié entre guillemets, hein, même s'il y avait quand même des joueurs. Salah, il rentre de la canne. Je veux bien quand même aussi qu'il s'appelle Salah, mais bon, il rentre de la canne. Voilà, il y avait quand même des joueurs. Un Liverpool assez remanié. Donc, j'ai trouvé assez faible le match.
Cédric. Un double appel. Merci en tout cas Cédric pour cette analyse. On va suivre évidemment l'entrée en compétition de cet Olympique Lyonnais.
On peut juste partir du principe que Liverpool est une bien meilleure équipe actuellement que Lyon.
Absolument.
Et que les deux, buts d'écart, c'est simplement ce qui reflète l'écart entre Lyon et Liverpool aujourd'hui.
Il faut aussi regarder effectivement cette prestation à l'aune de l'adversaire qui est tout simplement le champion d'Europe en titre à Liverpool. Défaite donc ce soir de l'Olympique Lyonnais 3-1 face à Liverpool. On va revenir dans quelques instants avec Saber Desfarge pour vous parler du Mercato, le Mercato Show. Vous saurez tout sur ce qui s'est passé en ce mercredi 31 juillet. On va vous donner un maximum d'informations sur les transferts, les différents transferts. Il y aura une grosse page lilloise qui intéressera probablement Ludovic Obraniak. Et puis vous le savez justement, puisqu'on parle de Lille cette semaine dans l'After, on vous offre vos places pour le match LOSC AS Roma ce samedi au stade Pierre-Mauroy. Que vous soyez lillois ou que vous soyez pro-romain, profitez de ce match en fan zone pour remportez vos places. Vous envoyez place au 7-32-16, PLACE au 7-32-16. On revient dans un instant dans l'after avec Saber Desfarge pour vous parler de tout le mercato de la journée.
RMC, l'after foot, Timothée Mémon.
22h43, l'afterfoot, c'est jusqu'à minuit. Dans la deuxième heure, on va vous parler de notre hashtag d'hier, mon joueur de cœur, de celui d'aujourd'hui, mon Mitroglou. Et puis on jouera évidemment à la fin de cette émission pour des cadeaux exceptionnels, vraiment. En tout cas, ce sera tout à l'heure. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez participer à ce quiz au 32-16. Saber Desfarge nous a rejoint pour le Mercato Show.
C'est combien ? 30 000.
Attends, je vais te manger.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui, c'est 30 000. C'est un con.
Voilà, ce jingle qu'on adore pour exactement cette émission très produite. Le Mercato Show, donc, c'est avec Saber Desfarge. Saber Desfarge, qui est quelqu'un d'extrêmement moderne, qui m'a donc envoyé mes lancements sur mon téléphone.
Sur ton WhatsApp.
Voilà,
exactement.
Absolument.
C'est par là que ça se passe pour avoir
et
des informations aussi, tu sais.
Arrive à Lille.
Exactement. Confirmation du président Gérard Lopez un petit peu plus tôt sur RMC. Tu étais là, Ludovic. Le président du LOSC.
On l'a travaillé un petit peu.
Qui a confirmé que Victor Osimhen, c'est un international nigérian qui arrive de Charleroi. Il est sur le point de s'engager avec Lille pour normalement 5 ans. Il est attendu dans le Nord pour passer sa visite médicale cette semaine.
Osimhen, vous connaissez?
Messieurs. Combien vaut-il?
J'ai pas environ 12 millions d'euros,
ouais,
pardon.
12 millions, je crois.
Environ 12 millions d'euros. J'ai pas le prix exact, mais normalement, ce sera aussi assorti d'un petit bonus, mais aussi, Charleroi fait un petit peu comme Lille, finalement, avec Raphaël Léao, il y aura également un bonus, ou plutôt un pourcentage
à la revente,
ouais.
Non, c'est un bon joueur dans le profil de Nicolas Pépé, lancé, rapide, technique. Non, c'est bonne pioche à 12 millions d'euros. Voilà, quel risque tu prends quand tu as empoché ce que tu viens d'empocher. Tu tentes un pari sur un joueur qui a de fortes qualités, qui joue dans un championnat qui est limitrophe. Donc tu as eu l'occasion maintes fois de le superviser.
Il a joué la CAN.
Il a joué. Donc voilà, c'est bon recrutement à 12 millions. Oui, c'est bonne pioche. Bonne pioche.
Mais t'as toujours qui dans l'axe?
Loïc Rémy pour l'instant.
Oui, voilà, pour l'instant.
Oui, mais
pardon, Loïc Rémy, non, Loïc Rémy.
Il nous a dit, le président, que Christophe Galtier avait demandé deux attaquants.
On y vient.
De valeur, de bonne valeur. Donc, il y a encore deux attaquants.
Ludovic
Obraniak
qui passe le ballon. Moi, je pose la question pour que Ludovic te passe le ballon.
On a donc une passe décisive pour un dossier très complet qu'on peut retrouver notamment sur rmcsport.fr. Un dossier sur l'été doré, le Golden Summer. De ce Lille Olympique. Je te parle
depuis un petit moment, celui-là.
Voilà, mais on veut en prendre plein les yeux.
Écoute, tu le sais comme moi, vous le savez comme moi, les caisses n'ont jamais été aussi pleines à Lille. L'équilibre a été trouvé déjà avec, évidemment, les retombées de la saison dernière qui fut exceptionnelle, ne serait-ce que les 18 millions d'euros dans les poches grâce à cette place de dauphin du Paris Saint-Germain. Au total, ça fait 60 millions d'euros assurés au minimum avec cette qualification également pour la prochaine Ligue des Champions.
Il nous a dit qu'il était déjà dans le positif avant de commencer la saison.
Avec ça, exactement. Ouais. Ensuite,
60
on...
avec les 18, tu l'as dit.
Ouais. Et la qualification 15... pour la Ligue des Champions. Minimum.
Oui, la qualif, c'est 15 minimum.
Non, c'est un petit peu plus.
La qualif, c'est 15. Après, c'est plus de 2 millions la victoire et 900 000 le match nul.
Ce sera 2,7 millions exactement.
2,7 et 900 000 le match nul. Et on sait tous qu'ils vont avoir un groupe. Compliqué,
exactement. Les ventes, ensuite, font passer Lille clairement dans une autre dimension, avec Léao et Pépé qui sont sur le point de quitter le Nord. Lille est en passe de vente pour près de 155 millions d'euros hors bonus et hors pourcentage à la revente cet été. Potentiellement 200 millions si Soumaré est cédé à condition d'être prêté une saison supplémentaire dans le Nord. Lille a refusé aussi des offres cet été. 42 millions pour Maignan, 45 et 40 pour Bamba, il connaît 25 pour Tchelik. C'est immense. Le LOSC veut à présent se renforcer. En plus des 8 arrivées, 2 à 3 renforts
une
offensifs sont attendus.
Monaco quand même, hein. Ça se sent. Hein.
Moins quand même, parce que tu vois, t'as des offres pour ces joueurs-là et pour l'instant, c'est niette. Soumaré, ça reste. Maignan, ça reste.
Ouais, ils disent non à 42 et 40.
Bamba, ils ont été déclarés intransférables avant Iconé, même le début de l'été. Ouais. Ces trois-là, Bamba, Iconé,
c'est en ce sens qu'on on parle de jurisprudence à SM. Ouais. Ça va dans ce sens-là, parce que je pense qu'avec ces prix-là, je veux dire, un gardien de but en France à 42 millions, je pense que ça aurait été le record dans l'histoire du championnat de France pour la vente d'un gardien qui joue dans notre championnat.
Tu dis oui.
42, un gardien de but.
Hugo Lloris, c'était parti pour combien? Oui, à moins que ça.
Moins que ça, il y a moins de temps, mais ouais. C'était moins fou, mais moins que ça, certainement. Mais qui disent non, oui, ça veut dire que, d'accord, on a valorisé nos actifs, puis, on a puis, vendu le puis, meilleur d'entre eux. Et
tu récupères Benjamin André, qui est une valeur sûre de la
Ligue. Pour 10.
8. Tu récupères dans certains deals le deal avec les Yao, tu récupères un jeune joueur
portugais
qui
est, de
voilà, tu récupères là Osimhen qui va signer. Petit à petit, ils vont construire cet effectif. Après, est-ce que c'est l'effectif? Eux, ils restent dans le plan qui s'était fixé, c'est-à-dire que Ligue des Champions, c'était pas prévu. Donc, le président l'a dit, nous, on fera pas de folie. Le mec, il gagne 10 000 chez nous, il gagnera pas 50 000 la saison prochaine.
Ils ont pas budgété la Ligue des Champions.
Non, c'est la saison passée.
Donc, ils étaient sur leur ligne de septième.
Évidemment.
Et ils vont pas s'envoyer en l'air.
Messieurs, on se souvient du scepticisme de la DNCG à l'arrivée du président Lopez, quand on a engrangé
cette fois c'est passé 155
millions d'euros, est-ce qu'on va aller DNCG dans un costume de poussin?
Mais il n'y a même pas besoin de ça. Il a fait racheter la dette il y a quelques mois par ses actifs ou par les différents investisseurs.
Et la masse salariale était encadrée.
Voilà. Et donc du coup, le LOSC était avec zéro dette. C'est-à-dire que la dette a été purgée par les investisseurs. Qui
oui,
aujourd'hui,
mais non, c'est important avec un taux non négligeable.
Ça, c'est son problème. Mais lui nous a dit ce qui repartait, il y avait énormément qui allait être réinvesti dans la construction de l'équipe et qu'il y avait une infime partie qui était consacrée au remboursement puisque c'est
une infime partie.
Ouais, il a dit que c'était une partie très 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 maigre qui était puisque apparemment ça a été échelonné sur plusieurs années.
Et les dirigeants lillois entendent à présent investir entre 60 et 70 millions d'euros cette saison, ce qui est pas mal du tout
sur
pour un
mercato.
Exactement.
D'accord.
Ouais.
plus les infrastructures dont Ludo vient de parler.
Alors les infrastructures, moi, il a évoqué, moi j'ai compris qu'il voulait se développer, donc j'ai compris qu'il voulait remettre le LOSC sur la carte de France.
Il y a une volonté aussi de créer un club omnisport.
Un club fort, mais un club omnisport aussi. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a aussi l'idée de prendre des clubs. Au vu du panel de joueurs que peut avoir Luis Campos, tu peux pas tous les intégrer dans le groupe du LOSC. Plutôt que d'avoir un groupe qui est trop large, que ce que ne veut pas Christophe Galtier, et pour pas ne les mettre dans une division qui est aujourd'hui l'équivalent de la CFA,
5 jeunes
de la
sont CFA 2. Au
non, j'ai compris moi qu'ils allaient acheter des clubs satellites. Ou qu'ils étaient.
Si tu dis entre les lignes, tu peux l'entendre comme ça.
Non, voilà. Attends, c'est ce que j'ai compris. Club Omnisport, on achète des clubs satellites. Il y a une dette à éponger.
C'est ce qu'il nous a confirmé.
Il parle d'infrastructure. Quand on sait que Luchin est peut-être l'un des meilleurs domaines d'entraînement de Ligue 1, qu'ils ont un stade tout neuf, c'est forcément autre chose. Je trouve qu'effectivement, si c'est cette notion de club Omnisport, ça peut être particulièrement intéressant. On sait que le modèle fonctionne en Grèce, par exemple, à l'Olympiakos ou au Panathinaikos, où vient de signer Johan Molo. Voilà, je tenais
à y aller. Il a fait un pari, il a gagné des sous.
Complètement. Le club omnisport, c'est-à-dire.
Eh ben, un club à l'Olympiakos, il y a une équipe de basket, il y a une équipe de volley au Barça, il y a une équipe de basket,
le Barça. À Lille, on est naze.
Non, mais c'est pas sous la même entité. Quand le Barça, quand on dit que c'est un club omnisport, c'est qu'ils ont l'écusson du Barça, du FC Barcelone. Ils appartiennent au FC Barcelone.
Je vois pas l'intérêt parce que les clubs, c'est-à-dire qu'on soit en basket, en hand ou en rugby, à Lille, il y a zéro. Donc je vois pas l'intérêt de créer un club omnisport. Moi, je te dis, je pense plus qu'aujourd'hui, par rapport à...
Il y a une équipe de basket en probé.
Par rapport à la conjoncture et leur façon de fonctionner, moi, je crois plus qu'ils seraient capables d'investir dans un club pour pouvoir justement avoir à portée de main les jeunes joueurs qui font venir, qui laissent grandir, pour ensuite intégrer l'équipe première et d'avoir au moins un club qui joue à un plus haut niveau que l'équipe réserve du LOSC.
S'ils le font,
moi je le comprends,
je les vois bien investir dans un club satellite, vous savez où?
En Belgique.
En Belgique.
Proximité oblige. Messieurs, on va avancer. On va avancer sur ce mercato, Ludovic.
Il me semble à un moment.
Qui donc?
On va avancer. Parce qu'il n'y avait pas un partenariat avec Moucron.
Moucron.
À un moment donné,
je crois qu'il y avait un partenariat. Je me demande s'il
y a partenariat avec Club Satellite. C'est quand même aussi de statut différent. Intéressant. Malcolm est quasiment au Zénith.
Ouais, information RMC Sport révélée hier. Malcolm va s'engager à Saint-Pétersbourg. Transfert de 40 millions d'euros plus 5 millions de bonus. On le sait, il est barré par la concurrence au Barça.
C'est lui qu'il fallait à Lyon, mon Dieu. C'est lui qu'il faut à Lyon, la place de Traoré.
Pourquoi pas? Il voulait partir depuis cet hiver, Malcolm, il avait différents contacts, que des contacts, c'est pas les plus loin, avec Everton, avec Manchester United, avec même le Paris Saint-Germain. Un contrat faramineux de 5 ans l'attend à Saint-Pétersbourg, et un salaire bien au-delà de ce qu'il touchait à Barcelone. Malcolm est attendu en Russie dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale.
Au-delà de ce qu'il avait au Barça.
C'est décevant, messieurs, de voir Malcolm partir en Russie sans faire offense au championnat russe.
Pour moi, c'est très décevant, dans le sens où, quand t'as l'étiquette Barça, derrière, tu peux trouver facilement un club européen qui joue encore les premiers rôles. Le Zénith, je n'enlève pas au Zénith sa stature. J'ai énormément de respect pour le Zénith Saint-Pétersbourg, qui est un grand club. Mais quand t'es Malcolm,
jouera avec des champions.
Quand t'es Malcolm et que t'as 24 ans, même pas
23.
23 ans. Et t'as signé au Barça, et t'as l'étiquette Barça, tu peux pas te dire encore, j'aspire à jouer dans un championnat européen majeur.
Il a fait le choix de l'oseille.
Mais à 23 ans.
Il était pressé, il voulait trouver un club.
François, le choix de l'oseille. Il fait le choix. Mais à 23 ans, il va au Barça, où il sait que il aura une chance sur 10 de jouer. D'ailleurs, ça s'est vérifié quasiment ses stats. Tu l'as dit, Saber, il voulait se barrer du Barça au mercato hivernal. Ouais. Là, c'est un joueur qui a fait, d'ailleurs, il a bien vu, hein. C'était pas le premier ni le dernier. Je signe au Barça, je vais pas beaucoup jouer, mais je vais être un joueur du Barça, donc ma cote, elle va augmenter x4, x3. Enfin, un transfert à 40 millions d'euros, il a joué quoi? Il a peut-être joué 20 matchs, toutes compétitions confondues, Malcolm, la saison passée.
Je trouve que c'est un très
choix de l'oseille.
Pour lui, c'est un...
Je conteste pas, hein,
à 23
moi,
ans, faire ce choix-là, honnêtement, il a tout l'avenir devant lui, ce garçon, il est extrêmement talentueux. Et pour moi, c'est... Quand tu fais ce choix-là à 29 ans, 30 ans... Il n'y a pas de souci là-dessus, je le conçois, je l'ai fait moi aussi, donc je ne vais pas critiquer. 23 ans, tu viens de signer au Barça.
Tu sais ce qu'il se dit, je pense?
il se dit, je vais au Zénith, je joue avec des champions, peut-être que dans un an, tu vas le voir revenir en Europe occidentale.
Si, messieurs,
parce qu'il va comme ça avoir une espèce de salaire.
Il n'y en a pas beaucoup, hein, des joueurs qui sortent ensuite du championnat russe.
Mais revenir. François, comment tu fais pour revenir avec le salaire qu'ils vont lui proposer au Zénith? Qui le reprend en Europe?
Il va se dire que ses qualités ne les a pas perdues. On a parlé de son âge, qu'il peut se faire remarquer sur la scène internationale et puis avoir de nouveau un contrat en Angleterre.
Pour moi, il manque un contrat en Angleterre. C'est un gros manque de confiance en lui et se précipite là.
Saber Bruno Genesio part pour la Chine.
Oui, c'est le nouveau coach de Beijing Guoan. Le club a officialisé la nouvelle ce matin. Bruno Genesio s'est engagé jusqu'à la fin de la saison chinoise, c'est-à-dire jusqu'au mois de décembre. Il va retrouver une autre connaissance de la Ligue 1 ou encore de la Ligue 1. Cédric Bakambou.
Autre information, entraîneur, Vaïd serait sur le point de partir.
Oui, information West France que RMC Sport est en mesure de confirmer. Les tensions entre Vaïd Halilhodžić et les dirigeants nantais ont atteint un point non-retour. L'entraîneur devrait laisser sa place sur le banc dans les prochains jours. Halilhodžić, qui avait réfléchi déjà plusieurs fois à quitter son poste depuis son arrivée à Nantes, c'était le 2 octobre 2018, mécontent du mercato notamment, le Bosnien estime qu'il n'a pas été suffisamment consulté et suivi sur la question du recrutement. C'est l'un des points de tension avec ses dirigeants qui le poussent aujourd'hui à quitter le club.
Retour sur le terrain lui-même, Lukaku, Dybala vers un échange.
Ouais, ça paraît incroyable. C'est un échange que personne n'avait vu venir, qui serait en train de s'opérer entre Manchester United et la Juve, d'après la Sky en Italie. Un échange entre Romelu Lukaku et Paolo Dybala, sans contrepartie, est en cours de finalisation. Le Belge se serait déjà mis d'accord avec la Juve et manque celui de l'Argentin avec Manchester United.
Je reviens pas que la Juve prenne Lukaku, Higuain devant.
Alors justement, c'était ma question. Dybala, il a un style de jeu qui peut s'adapter un petit peu à tous les championnats en registre technique. On a maintenant dans le championnat anglais des joueurs de ce registre-là. Lukaku au milieu du calcio.
Alors, il a un profil bien spécifique, Lukaku. C'est-à-dire que c'est un attaquant qui est très fort dans la protection du ballon, qui techniquement est pas maladroit. Il joue très bien en pivot. Mais je l'imagine mal dans le cadre Juventus de Turin. L'Inter, ça tique moins, mais la Juve, tu vois, j'aurais plus vu Icardi ou quelqu'un d'un peu plus virevoltant, tu vois. Là,
ils ont joué avec Mandzukic, point de fixation, joueur. Mais pour moi, là, Lukaku, c'est le Mandzukic du pauvre. Par rapport à cette Juve à venir, ils l'ont pas transféré, notre ami croate.
Non.
Et il est toujours en effectif. Qu'est-ce que tu as besoin? Mais bon,
d'autant qu'il s'entend.
La Juve.
D'autant que sa relation avec Ronaldo
est
très bonne.
Elle est faite. Et quand à un moment donné, il y a 2 ou 3 saisons, Mandzukic, il lui arrivait de jouer sur la gauche. De toute façon, tu ne peux plus jouer à gauche. Il y a CR7.
Tu te retrouves avec.
Donc, Higuain. C'est l'embouteillage, Lukaku, en pointe.
Mandzukic.
Et Moïse Ronaldo, Kine, à un moment Moïse donné, Kine
il voudra peut-être jouer en pointe. Parce que jouer sur le côté, à un moment donné, je pense que Sarri, il le voit bien sur le côté.
À un moment donné, sauf qu'on va le dire depuis 2-3 ans, puis il vient pas, parce que l'autre, il est fit comme c'est pas possible.
C'est 12 buts sur 32 matchs la saison dernière, dans une équipe de United qui a pas forcément scoré énormément sur la saison passée.
Ouais. Je sais pas, je dis pas que Lukaku est un mauvais joueur, je dis que simplement je le vois pas dans le cadre Juventus.
Saber, tu as réussi à nous faire écarquiller les yeux parce qu'effectivement c'est surprenant ce transfert. Quelques officialisations pour finir.
Kevin Prince Boateng qui quitte le Barça, lui qui était prêté par Sassuolo, c'était l'année dernière évidemment. Il quitte donc Sassuolo pour la Fiorentina, retour en Italie pour l'ancien du Milan qui s'est engagé 2 saisons en Toscane. Un mot de Brest, le promu qui a enregistré la signature de Ludovic Ball, 33 ans, l'ancien de Lens notamment. Le défenseur s'est engagé 1 saison. Et puis Nicolas Benezet qui quitte Guingamp pour la MLS et Toronto, le rêve de Ludovic qui est passé à côté de ça très peu en fait, de jouer à MLS. Et alors, pris avec option d'achat pour Benezet.
Pour revenir sur ce truc là d'échange, comme je ne vois pas à l'inverse Dybala à Manchester.
Ouais.
Tu vois, c'est
on aura l'occasion d'en reparler, messieurs, l'after jusqu'à minuit.
Et sous-utilisé là-bas. Honnêtement, je comprends plus rien, moi.
On va prendre une petite pause pour s'en remettre. L'after, c'est jusqu'à minuit. Juste après la pause, justement, on revient avec le joueur de cœur, peut-être, de toute la Ligue 1. On parlera également du hashtag Montmitroglou. On est allé vous demander quel était ce joueur dans votre club que l'on vous a annoncé, soit médiatiquement, soit avec un transfert très onéreux, comme étant l'avenir de votre club et qui vous a finalement extrêmement déçu. Le Loïs Diony, ça pourrait être également le Choupo-Moting. Bref, hashtag Montmitroglou, vous nous donnez votre avis. On revient dans un instant pour l'after. Merci beaucoup, Saber,
avec
et bonne
plaisir,
vacances.
Avec plaisir, messieurs. Merci.
RMC, l'after foot.